Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, la suite avec vous, Thierry Dagiral. On décortique l'actu avec les grandes voix. Vous êtes ce soir avec Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion, et Alexandre Malafaï du think tank Sinopia.
Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci d'être présents sur Europe 1 ce soir. On va commencer à parler de cette loi bioéthique qui rentre à l'instant, qui entre en discussion en ce moment même à l'Assemblée nationale pendant toute cette semaine. Est-ce que c'était le bon timing, le bon moment pour relancer ce texte à haut risque à la fin de la session parlementaire, alors qu'il n'y a pas, bien sûr, beaucoup de députés dans l'hémicycle et alors qu'il y a sans doute d'autres priorités? Réponse ce matin sur Europe 1 de Gwendoline Desarméniens de l'association des familles homoparentales. On l'écoute.
Le mariage pour tous a été très dur à vivre pour toute la communauté. Ça a été très très violent. J'ai pas du tout le sentiment aujourd'hui que les gens sont apaisés. Non. On arrive avec des nouveaux débats qui sont des nouvelles problématiques et je pense que ça va encore être un combat. Ouais.
Chloé Morin, est-ce que c'est le meilleur moment en ce moment où on demande d'apaiser la société?
Alors il y a deux choses qu'il faut rappeler. D'abord, c'est la première chose, c'est que ça revient à l'Assemblée, mais le processus avait été lancé
avant le Covid.
Il y a une partie de la majorité d'Emmanuel Macron qui lui reproche de ne pas l'avoir fait avant.
Oui, c'est une promesse ancienne
et
d'Emmanuel
effectivement,
Macron.
Effectivement, c'est une promesse de campagne.
Bien
et
sûr.
On a une grosse majorité de l'opinion, c'est à peu près les deux tiers, qui soutient, en tout cas pour ce qui est de l'ouverture de la PMA pour toutes. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, en termes de calendrier, ça n'arrive pas exactement au meilleur moment. Parce que par rapport aux préoccupations sanitaires et économiques,
bien sûr,
ça peut donner le sentiment que voilà, que le législateur aurait sans doute pas plus important, mais en tout cas plus urgent à faire en ce moment. Et ça me rappelle la période du mariage pour tous, justement, où le principal reproche qui était adressé à François Hollande à ce moment-là, c'était pas tellement de vouloir tenir une promesse, c'était de laisser traîner. Et de laisser le débat se durer.
Donc une volonté vraiment de faire dans l'express, quoi. Une semaine, c'est parti, ça va au Sénat, et puis il faut vite se sortir de ce...
Ben, au moins, ça permettra de couper
compliqué.
Un peu court à la critique, disant vous n'êtes pas sur les priorités, les priorités des Français aujourd'hui.
Alexandre Malafaï, même les marcheurs entre eux, la majorité, elle est divisée sur cette question.
D'abord,
de la PMA.
D'abord, oui. En fait, dans cette loi, il n'y a pas que la PMA. Il y a une trentaine de points qui sont visés. C'est des débats qui sont très compliqués, qui ont été quand même lancés il y a déjà un certain temps. Donc, on ne part pas de zéro. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le calendrier. Et en même temps, il faut bien y passer. Parce que même s'il y a des urgences sanitaires, il y a une certaine forme de réalités humaines qui sont derrière les enjeux liés notamment à la PMA pour toutes, mais pas seulement, les questions d'adoption, faute de filiation, etc. Donc là, vous avez des débats qui ont été évoqués. Il y a quand même une réunion pendant je crois, une année de la commission éthique qui a fait beaucoup de consultations. Donc il y a énormément de choses qui sont remontées. On peut quand même regretter, évidemment, que ça se passe maintenant, parce que, évidemment, tous les parlementaires ne sont pas là, et c'est peut-être un peu dommage. On peut regretter que l'avis du Sénat n'ait pas été pris en compte, mais ça confirme une fois pour toutes que, de toute façon, globalement, voilà, on a beau, quand on est minoritaire, on a juridiquement tort. Donc le Sénat, là encore, sert pas forcément à grand chose. Maintenant, vous avez des débats de fond sur lesquels voilà, il faut aller, il faut les passer parce que ça concerne des gens dans la vraie vie et c'est important. Maintenant, moi, je regrette un dernier point, c'est peut-être trop de sujets. C'est-à-dire que par rapport à tous les enjeux qui sont posés, objectivement, en
tout
plein
ça,
cœur
en...
de l'été, l'appropriation par la population française de tous ces sujets...
Tout ça en 25 heures, je crois,
voilà,
c'est ça.
Exactement, voilà, trop de sujets, et sur certains d'entre eux qui sont quand même extrêmement compliqués, sensibles, et avec des... on est en train de jouer un peu aux apprentis sorciers si on va trop loin dans ces domaines. Voilà.
Et notamment, Chloé Morin, il y a cet amendement dont on parle beaucoup, l'amendement ROPA. Il faut expliquer ce que c'est, une méthode qui autorise donc une femme en couple à se faire implanter un embryon conçu avec les ovocytes de sa partenaire. Certains disent finalement que c'est la porte ouverte à la GPA ensuite.
C'est la grande difficulté de ces sujets, c'est qu'en fait, en réalité, quand on observe l'opinion, derrière le fait qu'une grande majorité, comme j'ai dit tout à l'heure, approuve la PMA, on se rend compte très vite qu'il y a des questions, voilà, il y a beaucoup de questions sur ce que ça veut dire, sur... la société que ça dessine. Et donc, l'opinion n'est pas forcément formée. Et forcément, effectivement, ça pose une question démocratique de fond, de se dire, faire ça en plein été, à un moment où les gens sont plus ou moins en vacances, est-ce qu'ils vont pouvoir s'approprier les choses? Est-ce que, Voilà, c'est un vrai sujet.
Alexandre Malafaille.
Oui, il y a deux éléments. Il y a vraiment l'aspect de la modélisation. C'est est-ce qu'on se pose toutes les questions sur les conséquences, des conséquences, des conséquences à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est aussi pour ça que ceux qui se mettent en travers aujourd'hui, parfois pour des questions politiques, parfois pour des questions religieuses, parfois pour des questions philosophiques ou éthiques, posent quand même des questions qui sont de dire est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur la société que nous voulons ?
C'est ça.
C'est vrai que quelque part, en l'espace d'une génération, une grosse génération, en 20 ans, dire on est passé d'un modèle où globalement la famille c'était un homme et une femme et on n'en sortait pas.
Exact.
Aujourd'hui la famille c'est quoi ? C'est un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, un homme seul, une femme seule. Voilà.
Ouais.
Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que les adultes, il y a les enfants, avec toutes les conséquences qui sont posées, et tout ça en l'espace de très peu de temps. Donc là encore, je reprends le terme d'appropriation, l'appropriation par la société de toutes ces mutations et l'acceptation de ce qui va avec, avec tout ce que ça veut dire, au sens de dire on vit ensemble et on est d'accord pour tout ça, bah, c'est pas gagné, quoi. Et donc quand on accumule les sujets et qu'on les traite tous comme ça, pêle-mêle,
ouais,
comme on l'a fait peut-être avec le mariage pour tous, qui n'avait pas aussi été très bien présenté dans le bon contexte, bah, à la fin, vous avez des clivages qui n'arrivent pas à se résoudre. Alors c'est dommage parce qu'au bout du compte, la plupart des sujets sont des sujets essentiels qui touchent les gens directement.
Et d'ailleurs, les opposants, l'Église, dit, Chloé Morin, que derrière la PMA, c'est aussi la gestion de la suppression du père de la société.
Oui, alors, il y a de toute façon une opposition très forte, à la fois religieuse ou philosophique de certains. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir que ça n'est pas un clivage gauche-droite, en l'occurrence. Vous avez des gens à gauche qui sont extrêmement contre, sinon la PMA, du moins la GPA.
Ouais.
Et donc, ce sont des questions qui sont, d'ailleurs, politiquement, qu'on a du mal à traiter. On a vu qu'on avait des conventions citoyennes qui essayaient de traiter certains sujets. On en parlera tout à l'heure, peut-être, avec l'environnement. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a plus tellement les outils pour permettre aux gens de vraiment s'approprier les sujets, puisque le Parlement, finalement, c'est un endroit qui compte peu. À leurs yeux.
Ouais.
Enfin, personne ne regarde les débats au Parlement et on sait que l'influence réelle des parlementaires est de moins en moins grande. Mais les conventions citoyennes, finalement, les gens ne se sentent pas davantage représentés.
Ouais.
Et pareil pour les commissions d'éthique, ou, etc., etc.
Allez, on continue à parler de cette PMA, pas que, en discussion depuis quelques minutes maintenant à l'Assemblée nationale. On va vous écouter également en 39-21. Vous prenez la parole. À tout de suite.
Le débat des grandes voix sur Europe 1 continue dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. Vous êtes avec Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion, et Alexandre Malafaille du think tank Sinopia, et vos réactions au 39-21.
Et justement, Bruno du Rhône vient de nous appeler au 39-21. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Merci de nous avoir appelé. Vous êtes en couple avec un homme, vous venez d'avoir un enfant, félicitations à vous, via
C'est ça, on va fêter les 3e anniversaire de notre fils cette semaine.
La GPA donc réalisée aux États-Unis. Vous réclamez-vous la GPA en France ou pas ?
Non, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de brouiller le débat sur le sujet. Donc, pour l'instant, la PMA pour toutes, c'est déjà très bien.
Ouais.
Par contre, on verra dans un acte 2 ou, comme pour parler, version Netflix, dans une deuxième saison.
Mmh.
Mais pour l'instant, la GPA est autorisée dans certains pays.
Mmh.
Donc, essayons de gérer déjà les enfants qui naissent par cette technique légalement dans d'autres pays.
Ouais. Qu'est-ce que vous me dites qu'il y a une question, la question sur la filiation, je vous écoute.
Eh bien justement, comme la GPA n'est pas légale chez nous, mais qu'elle est légale dans d'autres pays, ces enfants qui naissent français à l'étranger, quand ils rentrent, eh bien, on leur déchoit souvent l'autorité parentale d'un des deux parents.
D'accord.
Et donc moi, ce que j'attends de la loi bioéthique pour les hommes en couple et qui ont eu un enfant, eh bien, c'est que la transcription de l'acte de naissance et la filiation soient définitivement gérées et qu'on ne soit plus obligé de passer par des procès ou des démarches coûteuses à certaines, voire dégradantes.
Merci à vous, Bruno. Alexandre Malafaille vous répond.
Les évolutions de la société sont généralement suivies très tardivement par la loi sur ce type de sujet. On est face à des réalités et puis pendant un certain nombre d'années, parfois des dizaines d'années, vous avez un vide juridique. C'est typiquement le cas pour le cas de Bruno avec son compagnon, son mari, et qui ont un enfant qui a été adopté à l'étranger dans des procédures parfois qui sont extrêmement rigoureuses aux États-Unis notamment. Ils sont très pointus sur ces questions-là. Et vous avez après une zone d'entre-deux qui n'est pas satisfaisante. Donc de toute façon, il faudra à un moment donné trouver un système, un dispositif qui permet de régulariser ce type de situation, à défaut d'accepter la GPA en France. Ouais. Mais à un moment donné, on ne peut pas placer l'enfant dans une zone de non-droit. Ce sont des enfants, ils ont des droits, il faut les prendre en considération. Alors c'est vrai que c'est compliqué là aussi, sur un plan philosophique, sur un plan spirituel, sur un plan religieux. Mais à un moment donné, il faut régler les problèmes parce que ça concerne vraiment, vraiment des êtres humains. Et puis pour ce qui est de la PMA pour toutes, il y a une bonne nouvelle derrière tout ça, au-delà des débats techniques, au-delà des questions, tous les enjeux. Ça confirme une fois quand même que les femmes ont envie d'avoir des enfants. Ouais. Moi, je trouve que quelque part, le fait que les femmes ont envie d'avoir des enfants, quelle que soit leur situation matrimoniale de couple ou autre, c'est quand même une jolie démarche. Quand tu vois tous ces témoignages, on veut des enfants. Alors oui, les modèles ont changé. Alors c'est vrai que ça peut surprendre et je peux reconnaître qu'il y a de quoi être surpris parfois. Mais à un moment donné, voilà, il faut vivre avec son temps et d'une certaine manière, on ne peut pas revendiquer la liberté et puis refuser que la liberté passe par là. Quoi.
C'est une parfaite conclusion pour ce soir. On va continuer bien sûr d'en parler à 19h20. Restez avec nous. Je recevrai le médecin et pédiatre Catherine Dolto. On continuera à réfléchir sur ce sujet. Je voudrais qu'on parle maintenant de la Convention citoyenne. Il y a une volonté d'aller vite. Ça, c'est la marque Castex. Hein. Il faut aller vite. Il faut mettre en place des mesures qui peuvent s'appliquer là tout de suite. Trop vite, Chloé Morin.
Alors, il y a, à mon avis, le changement de méthode aujourd'hui, il est motivé par le fait que, globalement, sur la première partie du quinquennat, Emmanuel Macron avait un ministre emblématique, en tout cas pour une bonne partie de cette première moitié, c'est-à-dire Nicolas Hulot.
Ouais.
Il a fait des choses, quoi qu'on en dise. C'était quand même, par exemple, pour juste prendre un exemple, mais le seul à avoir tenu la promesse de fermer une centrale nucléaire, alors que François Hollande avait fait cette promesse, il ne l'a pas fait.
Ouais.
Donc il a un bilan, mais dans l'opinion, c'est considéré comme pas grand-chose.
C'est ça. On a l'impression que Macron court toujours derrière cela. Il agit au niveau international, en tout cas il est assez repéré au niveau international, mais en France, ce n'est pas le roi de l'écologie, dans les sondages en tout cas.
Voilà, donc... Il a rebondi sur les résultats des municipales qui étaient favorables aux Verts pour se dire je vais changer de méthode, je ne vais pas mettre une star au ministère de l'écologie, je vais mettre peut-être quelqu'un de plus pratique qui connaît mieux les mécanismes politiques du Parlement, de l'administration, etc. Ouais. Et on va essayer de faire du très concret, du très pratique, moins de symbolique peut-être, mais quelque chose qui rentre plus vite dans le quotidien des gens. Et peut-être que de cette manière-là, qui sait, il sera crédité d'avoir fait avancer la cause écologiste.
Alexandre Malaya, il y a quand même les annonces du jour, très concrètes dans notre quotidien, concernant le fuel, etc. Il y a aussi l'argent qui est mis sur la table, hein, 100 milliards d'euros de plan de relance, 30 seront consacrés à la transition écologique. Il y a quand même des choses là, on est dans le concret.
Il y a un peu de tout en fait.
Ah.
Il y a un peu de tout, on a quand même... malgré tout, en filigrane de tout ça, un peu quand même le sentiment qu'il y a une élection présidentielle en 2022 et que le président de la République quand même a été un peu pris au piège de sa convention citoyenne dont il a ouvert le spectre de la réflexion tellement large qu'à un moment donné, après les élections municipales, dire bah non, finalement, j'en veux pas de vos propositions, c'était prendre le risque d'être très, 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 très en danger. Voilà, donc on prend tout et puis on voit comment on peut faire, sachant que là-dedans, il y a vraiment des bonnes idées, mais il y a aussi des choses qui laissent un peu, en tout cas, un peu sur le carreau. Franchement, la question, par exemple, on fait tout un pataquès. Là, moi, je veux bien qu'on nous parle de maintenant, là encore, d'un sujet majeur qui est les questions du chauffage, des terrasses, des cafés. Très sincèrement.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Sauf que c'est ce qu'on retient.
Les passoires thermiques, ça, c'est la vie quotidienne des gens et c'est intéressant. Interdiction des chaudières à fioul et au charbon, ça, c'est du concret.
D'accord. Je veux bien. Mais alors, juste un point. Ouais. Moi, je veux bien que sur toutes ces questions-là, on nous dise concrètement quel est le bilan carbone, par exemple, des terrasses chauffées. Et qu'on nous dise ensuite. Qui va payer et quelles sont les conséquences pour ceux qui sont concernés? Parce qu'après, si c'est pour gagner l'équivalent, je ne sais pas, de 2 HLM qu'on fermerait à l'année, à un moment donné, tuer des dizaines de cafés, hôtels, restaurants qui n'ont pas besoin de ça dans le contexte actuel, est-ce que c'est une bonne idée? Pareil pour les passoires thermiques. Qui a décrété, qui a fait les règlements, qui est les règles de construction? Qui les a décrétées? Ce n'est pas les propriétaires. Qui a encouragé le chauffage électrique en France avec la filière nucléaire? Ce n'est pas les propriétaires actuels. Alors évidemment, là-dedans, il y a des sales types, des gens qui utilisent vraiment des logements qui les louent dans des conditions épouvantable à des loyers très chers, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a des réalités économiques. Donc si demain, on veut transformer le paysage urbanistique de la France, il va falloir aussi s'en donner les moyens et pas uniquement faire payer ceux qui sont propriétaires en disant « c'est comme ça, c'est pas autrement », parce qu'on l'a fait avec la voiture, on le fait tout le temps. C'est facile de dire aux citoyens « l'État s'est trompé, maintenant vous allez assumer ».
Un mot rapide de Chloé Morin, puis on reviendra bien sûr.
D'ailleurs, ça pose la question de l'acceptabilité, parce que tout le sujet de la Convention citoyenne, c'était pas de dire « ça va être des experts, ils vont sortir des super propositions qui n'existaient pas avant ». d'ailleurs, on a vu qu'elles existaient toutes à peu près, soit issues du Parlement, soit des ONG, c'était de dire, on va construire de l'acceptabilité. Et par le cheminement de ces citoyens, eh ben en fait, on va embarquer toute la France dans l'acceptation de mesures qui, parfois, sont effectivement douloureuses. Et j'ai le sentiment que cet objectif-là n'est pas vraiment rempli, en fait.
Allez, l'écologie aux armes, citoyens, on continue à en parler avec vous au 3921 dans un instant. À tout de suite.
Il est 18h50, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix. Autour de vous ce soir, Thierry Dagiral, Alexandre Malafaille du think tank Sinopia et Chloé Morin, spécialiste en analyse de l'opinion. Et vos réactions au 3921.
Et Anne nous a contacté au 3921. Bonsoir Anne, vous nous appelez Toulouse.
Oui, bonsoir, oui tout à fait. Et merci de prendre ma question.
Ben, merci à vous.
Voilà, je me posais la question, et c'est en plein dans la convention citoyenne, c'est comment aider les entreprises pour lever certains freins. Par exemple, je pense, il y a des propositions qui ne coûteraient rien, ni au gouvernement, ni aux contribuables.
Lesquelles ?
Ce qui serait, par exemple, de faciliter les homologations des matériaux bas carbone et les solutions écologiques durables. Je prends un fait très concret. Mmh. Nous sommes en train de construire un cinéma écologique et ça va être le premier de France à bas carbone, à énergie positive.
À
ceux qui veulent voir, c'est Utopia Pont-Sainte-Marie, ils peuvent taper sur Internet. Il y a tout, il y a un dossier complet. Mmh. Et par exemple, alors qu'il n'y a pas plus coupe-feu et plus bas carbone que de la terre crue, c'est pas un truc qui est homologué.
D'accord.
On essaie de mettre des toilettes sèches dans un ERP. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale en 2010. Ouais, il y avait eu une réponse positive.
Ce que vous nous dites, Anne, c'est ça, c'est qu'il faut, il faut qu'il y ait une réponse politique derrière des textes de loi et que tout soit concentré vers cette ambition. C'est ce que vous nous dites.
Voilà, parce que par exemple, les toilettes sèches, nous, on sait faire. On est en train de parler de valorisation des urines. Mmh. On est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture. Donc, il y a des possibilités, mais on a des freins parce que ben, les pompiers vont nous dire ben, la terre, c'est pas pour feu, il n'y a pas d'homologation et les urines, on ne sait pas. Voilà. Et comment on peut faire pour lever ces verrous-là? Voilà.
Ouais, bonne question. Merci à vous, Anne, de nous avoir contacté au 3921. C'est vrai, Alexandre Malafaille, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il faut créer une filière? Est-ce qu'il faut créer des formations pour que ça aille plus vite, etc.? C'est bien de dire cela maintenant, il faut que ça suive.
À chaque fois, c'est des sujets qui sont d'une complexité extrême parce qu'on est dans un cadre réglementaire, législatif, on est tenu par les normes, on est tenu par le principe de précaution, on est tenu par les réglementations européennes. Enfin, voilà. Après, il y a aussi des réalités économiques, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. On dit, bah, allons-y, mais à un moment donné, si le logement coûte trois fois plus cher à construire ou à rénover, il y a aussi un problème de l'encore d'acceptabilité.
Enfin,
voilà. Donc, c'est des sujets qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence, éviter les grandes annonces, essayer d'être concret. Alors, il y a plein de manières d'agir, très sincèrement, depuis le comportement des habitants, la façon dont on peut rénover les logements. Il y a énormément d'enjeux. Et c'est vrai qu'on est dans un pays, un carcan enfin, réglementaire administratif, ce qu'elle disait cette dame sur le fait qu'il y a des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés alors qu'ils pourraient l'être et il y aurait un peu de bon sens, sauf que pour arriver à faire bouger simplement ça, c'est des dizaines et dizaines de réunions interministérielles, d'évolutions réglementaires qui sont très compliquées à construire.
La question sous-jacente derrière est la suivante, Chloé Morin. On a dit un 30 milliards sur deux ans. Ces investissements, il faut bien sûr les pérenniser pour réussir cette transition. Est-ce que deux ans finalement pour changer la donne, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi?
Non, je pense que l'idée, c'est de dire on enclenche une dynamique et comme ça, arrivé pendant la campagne présidentielle, on nous dira, bah voilà, on a commencé à faire le travail, il faut prolonger pour vraiment faire quelque chose de décisif. Mais pour ce qui est de la question des normes, en fait, ça pose une question fondamentale, ça pose la question de l'arbitrage entre le risque et la liberté. Parce que j'ai l'impression, et c'est le cas sur beaucoup de sujets, qu'on a une demande de liberté. Vous avez beaucoup de gens qui disent « laissez-nous faire ce qu'on veut, laissez-nous créer, laissez-nous entreprendre, etc. » Sauf que la liberté va nécessairement avec une part de risque et on ne veut plus assumer ce risque. Je prends l'exemple de l'école, par exemple. Quand on a déconfiné l'école, on a eu une demande de normes pour se protéger, pour que les profs, pour que les parents, etc., soient rassurés sur le fait qu'il y aurait des garde-fous et que leurs enfants retourneraient à l'école en toute sécurité. Et après, évidemment, on s'est plaint parce que ça a fait un espèce de truc de 62 pages, hyper compliqué, etc. Et c'est un peu comme ça pour tout. C'est-à-dire que pour les normes environnementales, c'est ça aussi. C'est, on dit, oui, les normes, c'est chiant. Et puis ensuite, quand on regarde en détail, on se rend compte que ça prévient des risques qu'on ne veut pas forcément assumer.
Ah bah c'est la précaution jusqu'au bout. Ouais. Hein, on le voit avec la question du port du masque qui est en train de se généraliser. Et moi, je vous fiche mon billet qu'on ne l'enlèvera plus jamais, ce masque. Hein, je le dis à vos auditeurs, c'est-à-dire qu'on l'a mis pour le Covid n'est pas terminé, mais vous verrez que l'année prochaine, il y aura peut-être autre chose, etc. Et on va devoir vivre autrement. Quoi. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Là encore, on ne peut pas mettre le débat sur la place publique. Mais après, il y a un point pour revenir un peu au sujet de fond que vous évoquiez, qui était ce sujet effectivement de la Convention citoyenne et des enseignements qu'on en tire. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer aussi votre attention. C'est quand même le point de la modification de la Constitution. C'est-à-dire qu'à un moment on va rajouter dans la Constitution une couche de contraintes qui est liée en fait à la protection du climat. Moi, je veux bien qu'on joue avec les grands principes parce que tout ça est intéressant, mais ne soyons pas toujours dans cette logique de surenchère française et solitaire. C'est-à-dire que le principe de précaution, tous ceux qui regardent un peu les choses avec du recul se disent que quand même, on a été un peu fort en besogne et qu'au bout du compte, c'est beaucoup plus contraignant à mettre en œuvre et il y a plein d'effets pervers que l'on voit aujourd'hui. Si on rajoute dans l'article 1 de la Constitution un principe de précaution par rapport à la planète et au climat, mais je veux dire, on va être les seuls encore à faire ceinture et bretelles au monde. Mais après, faudra pas s'étonner que notre économie ait du mal et patine. Donc il faut trouver là encore, c'est des questions d'équilibre où il faut à la fois engager et transformer et en même temps quand même prendre en compte la réalité dans laquelle on évolue et puis le fait qu'un pays doit rester compétitif. Voilà, il faut qu'il soit vis-à-vis de ses concurrents parce que l'Allemagne n'est pas qu'un partenaire, c'est aussi un concurrent. Et puis vis-à-vis du reste du monde qui globalement sur ces conceptions-là est très très éloigné de nos considérations. Malheureusement, on peut le regretter. Et sachant qu'en dernier point, quand même, on est très bon. Enfin, je veux dire, là encore, que vos auditeurs le sachent, la France est un pays qui, en matière de consommation carbone, fait partie des meilleurs au monde. Donc, il faut peut-être aussi, à un moment donné, être positif. Quoi.
Juste pour terminer rapidement, on en parlait tout à l'heure avec Michel-Édouard Leclerc. On n'aurait pas pu être concret sur le bien manger aussi, manger les courts-circuits, les circuits courts, tout ce qu'on se raconte. Hier, Yannick Jadot, dans Le Parisien, disait, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, on attend du concret, notamment le chèque alimentaire permettrait aux familles vulnérables d'acheter des produits bio. Il n'y a pas des petites choses du quotidien qui pourraient être mises en place, qui seraient vraiment pour le coup très concrètes et qui serviraient aussi les foyers, Chloé Morin ?
Ah si, ça, il y en a sans doute. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui devient central pour les Français. L'idée de manger sain, de manger proche de chez soi, des produits issus de près de chez soi qui permettent aux gens de vivre, c'est quelque chose d'essentiel. Donc c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement vraiment mette le paquet.
Alexandre Malafaye, pour conclure.
Oui, là-dessus, on est d'accord. Parce que c'est vrai que derrière tout ça, vous avez des filières qu'il convient d'organiser et d'encourager. Et là, pour le coup, on a un vrai sujet qui est aussi un sujet d'aménagement du territoire, de création de filières de proximité et de bien consommer. Et je crois qu'on a tous envie d'aller vers ça. Ça, c'est sûr.
Merci infiniment à vous deux. Merci d'être passés ce soir sur Europe. Un grand merci.
À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Le journal de 19h, prix des masques et des gels hydroalcooliques. Attention aux arnaques et aux produits miracles. À tout de suite.